Alors, ce matin, bon, on a un extrait ici d'un passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de, justement, d'Ecclésiaste, chapitre 3. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est une partie du passage qui nous dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et ça, c'est dans le cœur de n'importe quel homme sur la planète, de toutes les nationalités. Dieu a mis cette pensée-là de l'éternité. Alors, c'est pas pour rien que Dieu a mis ça. Dieu avait un but en faisant ça. Dans le cœur de chaque homme et chaque femme qu'il a créé, il a mis cette idée-là de la pensée de l'éternité. Dans le but d'avoir une relation avec sa créature. Et on voit aussi à travers les âges, à travers les différentes religions dans le monde entier, les hommes s'efforcent d'entrer en relation avec Dieu. Ils le font de différentes façons. Et j'aimerais ça vous montrer un petit peu en rafale qu'est-ce que ça donne. Là, j'ai mis ici un petit peu une illustration, si on peut essayer d'illustrer l'humanité, donc la Terre, avec Dieu, j'ai mis un peu comme la face de Dieu, si on veut, et sa main. Donc, la face de Dieu, sa main, puis l'homme. J'essaie d'un peu d'illustrer ça. Puis on va regarder ensemble rapidement différentes personnes qui prient dans le monde entier et dans diverses occasions. Ici, on a un homme, un soldat israélien, juif, qui est en train de lire ou méditer ou prier à travers peut-être un texte de l'Ancien Testament, peut-être le Deutéronome ou Ésaïe ou quelque chose comme ça. Et vous remarquez que sur son front, il y a une petite boîte. Et cette boîte-là, on appelle ça un phylactère. C'est qu'il y a, dans la boîte, il y a des parties, des fois minuscules, d'un manuscrit, des Écritures. Et ça, il y a ça sur le front et sur son bras. Dans les Écritures, on voit que la parole de Dieu s'est dit dans certains passages qu'on doit l'avoir sur le front et sur le bras. C'est un petit peu imagé, mais lui ici, c'est plus qu'imagé. Physiquement, il l'a sur le front et sur son bras. C'est devenu pour lui une réalité. OK. Ici, on voit des mains peut-être d'une femme qui est dans la Bible, qui est en train de peut-être lire ou prier. Ici, on voit quelqu'un, un musulman, qui est en position de prière et la tête vraiment au sol parce que c'est en signe de révérence, de soumission. Il est probablement qu'il est en direction de la mosquée, de la Mecque. Et puis là, il est en train de prier son Dieu, Allah. Ici, on a un bouddhiste qui est en train de, justement, aussi prier aussi son Dieu. On a Mère Teresa qui est en train de prier, justement, peut-être possiblement Marie. On peut le voir un peu à cause de son chapelet. Et on a un jeune qui est en train de prier aussi. Et je voulais un peu vous mettre ça à l'idée qu'à travers le monde, il y a plusieurs personnes qui prient, qui prient de différentes façons, qui prient Dieu ou leur Dieu. Et ce matin, justement, le sujet qu'on va aborder un petit peu ensemble, c'est la prière. Et nous autres aussi, on prie. On a pris un temps de louange pour célébrer Dieu à travers des cantiques. On a pris le repas du Seigneur ici. On a prié. Et souvent dans nos vies, on prie. Mais j'aimerais ça qu'on regarde un peu plus ce que c'est la prière. Et voici donc comment vous devez prier. Ça, si c'était moi qui avais écrit ça, vous diriez donc bien prétentieux celui-là un matin de venir nous dire comment on doit prier. Heureusement, c'est pas moi qui l'ai écrit, OK? C'est vraiment pas moi, puis je suis vraiment pas digne d'être ici puis vous dire voici comment prier, OK? Mais cette parole-là, c'est Jésus-Christ lui-même sur terre qui l'a dit on le voit à travers les Écritures, dans Matthieu, chapitre 6, au verset 9, c'est ce que Jésus nous dit. Voici maintenant donc comment vous devez prier. Puis là, il explique un peu la méthode dont on doit, comment on doit s'approcher de Dieu, avec quelle attitude. Et avant qu'on aille regarder plus en détail comment donc nous devons prier, j'aimerais qu'on puisse se courber justement dans la prière. Papa du ciel, notre cher Papa du ciel, on veut s'avancer devant toi ce matin. On veut d'abord te louer, t'adorer, comme on l'a fait durant ces périodes de chant, en tournant nos yeux vers toi, en te regardant, en soulignant combien tu es grand, comment tu es majestueux, combien tu es bon envers nous, gracieux, patient. Et ce matin, on veut te demander justement d'être avec nous ce matin. Tu nous connais tous, chacun dans l'Église ici où on est assis. Tu connais notre passé, tu connais ce qu'on est en train de vivre actuellement. Tu connais ce qui s'en vient devant nous autres aussi, alors que nous autres, on ne le sait pas. Tu connais toutes choses. Et tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes tellement. Je te prie ce matin par ton Saint-Esprit de permettre de disposer nos cœurs à ce qu'on puisse bien comprendre ce que tu veux nous enseigner. Quand toi-même, tu nous disais il y a 2000 ans, voici donc maintenant comment vous devez prier. Touche nos cœurs, Seigneur Jésus, ce matin. Et sois avec moi dans le choix des mots pour bien communiquer ton beau message. Dans ton beau nom, Seigneur Jésus. Amen. Alors, on va commencer. Voici donc comment vous devez prier. On va parler un petit peu de contexte avant de rentrer directement dans le sujet. Vous pouvez tourner avec moi dans Matthieu. Ce matin, on va pas mal rester dans Matthieu. Évangile de Matthieu, ou chapitre 6. On va commencer un petit peu pour être plus comprendre le contexte, à partir du verset 5 jusqu'à 8. Ici, le contexte, c'est vraiment que Jésus est en train il est sur la montagne, tu sais, il est en train de faire son fameux sermon sur la montagne, qui est bien connu. Et ça, le sermon sur la montagne commence au chapitre 5, 6 et 7, les trois chapitres qui couvrent l'enseignement de Jésus à travers une foule qui était là, qui l'écoutait. Et dans le milieu, il va parler justement de la prière. Et au verset 5, il commence comme ça. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils vont finir par être exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » Ici, j'attire votre attention un peu sur le verset 7. « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. » Dans le texte grec dans lequel l'original est écrit, il y a un seul mot qui est traduit ici en français par trois mots. Les trois mots, ce sont « multiplier »,« vaine », »,« parole ». Ces trois mots-là, dans le grec, c'est un seul mot. Et quand on le traduit, si on veut, littéralement, ou ce que ça veut dire, ce mot-là, que je vous nommerai pas, là, parce que je n'ai pas assez fort dans mon grec, Joël pourrait le faire, mais moi, je ne me risquerai pas à vous le nommer. Mais ça veut dire, ce mot-là, qu'on traduit en français par trois mots, ça veut dire « rabâcher » ou « baragouiner ». C'est tellement confus que ça n'a plus finalement aucun sens. C'est comme des multiplier de vaines paroles, ça devient incompréhensible, ça n'a aucun sens aux oreilles de Dieu. Et ça, c'est une mise en garde qui est là, de ne pas prier de cette façon-là à répétition. Et au verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Alors, on va entrer tout de suite dans la... Voici donc comment prier. Et ça, vous avez certainement remarqué, ça commence par « Notre Père ». Et ici, plusieurs personnes, des fois, ont déjà commencé dans la vie en apprenant ces prières-là. Moi, en tout cas, j'ai 62 ans, alors quand j'étais à la petite école, au primaire, j'ai commencé, et c'était des religieux qui nous apprenaient, des frères. À l'époque, moi, j'étais à l'école Saint-Paul, donc c'était des frères qui étaient là. Et ils nous enseignaient des prières, comme le Notre Père. J'ai appris par cœur le Notre Père, et bon, etc. Et cette prière-là, quand je suis devenu chrétien, plusieurs années après, je me suis rendu compte que c'était dans la Bible. On le voit textuellement, là, c'est ce qu'on va voir un peu ce matin. Mais c'est pas, comme on vient justement de le voir, ne multipliez pas par de vaines paroles. Dans le fond, c'est pas vraiment une prière. Ici, Jésus, comme il nous dit, voici donc comment. Donc, comment, ça veut dire que c'est comme une méthode, c'est comme un frame, c'est comme un squelette un peu que Dieu nous donne, une façon de faire. Mais c'est pas une prière qu'on doit apprendre par cœur et réciter à répétition. C'est un modèle. Donc, il faut vraiment le comprendre dans ce sens-là. Voici donc comment, la façon, un exemple que vous devez prier. Et là, la première partie, vous allez voir qu'on va le diviser comme en deux parties. Les deux premiers versets, versets 9 et 10, c'est vraiment l'idée que Jésus dégage, c'est de tourner nos yeux et chercher la face de Dieu. Donc, c'est vraiment un regard par en haut, chercher la face de Dieu. Et dans la deuxième partie qu'on va voir un peu plus tard, c'est vraiment baisser nos yeux un peu et chercher la main de Dieu. Mais souvent, honnêtement, on est bien plus comme réflexe en premier à chercher la main de Dieu, la main qui pourvoit, qui donne. Mais ici, Jésus nous porte attention, chercher la face de Dieu. Et vous allez voir que tous les prochains versets, vous allez voir, ça commence par le « Notre ». Et souvent, toute la façon dont le texte est approché, c'est en termes de « nous », de première personne du pluriel. Et pourquoi que c'est donné en termes de « nous » C'est un peu l'idée ici qui est sous-entendue un peu, c'est que c'est plus une méthode de prière, si on veut, en collectivité. Quand on est ensemble, en commun, on est frères et sœurs ensemble, on prie. Et c'est un peu la façon de prier. Et c'est une méthode, c'est un schéma. C'est sûr que comme les versets qu'on a vus tout à l'heure au verset 6, quand tu pries, là on vient de tomber à la deuxième personne, au singulier, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui va dans le secret va te le rendre. Là c'est plus comme privé, OK? Tandis qu'ici, ce qu'on va regarder, c'est plus une prière, plus en communauté. Mais un ou l'autre, tu peux appliquer, si tu veux prier seul avec Dieu, tu peux appliquer ce qu'on va voir ce matin. OK? Notre Père, Jésus commence comme ça. Il s'identifie à son Père. Notre Père qui est dans les cieux. Tout de suite, il nomme le notre, il s'approprie, il s'identifie à et notre Père. Il le situe dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu est important. Et ici, on tourne le regard et on prend un temps spécial par rapport au nom de Dieu. Souligner ses qualités, qu'est-ce que Dieu fait, ses attributs. Alors, on se concentre sur le nom de Dieu. Et dans la Bible, il y a plusieurs noms de Dieu. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, le début, le commencement et la fin plutôt, et etc. Il y a plusieurs noms de Dieu, et chacun des noms de Dieu décrit une facette particulière de Dieu. Et le nom de Dieu, j'aimerais vous faire un petit exposé très bref, parce que c'est quand même pas le sujet de ce matin, mais ici on a le nom de Dieu. Dans la langue originale qui est l'hébreu. Ici, ce sont les quatre lettres qui forment son nom. On appelle ça souvent le tétragramme, en voulant dire les quatre lettres qui forment le nom de Dieu. Et contrairement en français, normalement en français, on part la lecture de ce côté-ci, mais en hébreu, on va commencer à lire à partir de l'inverse du français. On commence à lire à partir de votre droite. Et ça donne un petit peu ceci. La première lettre, c'est le yod. Et dans chacune des lettres en hébreu, c'est comme relié à un symbole ou quelque chose qui est relié avec la lettre. Chacune des lettres est comme ça. Et pour le yod, c'est relié à la main. La main. Les deux autres lettres sont identiques. Et c'est le H en français ou le I ou le, je ne sais pas la bonne prononciation, I peut-être, là, en hébreu. Et la signification, c'est esprit ou souffle. Et la dernière lettre, c'est le wav, et sa signification ou son symbole, c'est le tlou. Alors, on a tout de suite dans le nom de Dieu qui a été mentionné à l'homme tout au début de l'Ancien Testament, dans Exode, et il revient ce nom-là de Dieu 6500 fois à travers l'Ancien Testament. Et on voit dans le nom de Dieu que Dieu a donné, il s'est identifié par ce nom-là, on voit tout de suite la Trinité de Dieu. On voit l'Esprit, on va dire c'est le Père, le premier Esprit c'est le Père, le deuxième le Saint-Esprit, et on voit ensuite le Fils à travers la main, et on voit ensuite le clou qui représente un peu l'homme qui vient mettre le clou dans la main de Jésus. Et le clou aussi, dans sa signification ou symbole, ça représente aussi l'idée de joindre deux pièces ensemble à travers un clou ou joindre à travers une cheville de bois, ou c'est l'idée de assembler ou de joindre ou de réunir deux choses ensemble. Et l'idée ici de réunir, c'est vraiment, le plan de Dieu, c'était de réunir l'homme à lui en se servant du clou dans la main de son Fils. Et tout ça, cette idée-là, que je veux juste qu'on retienne rapidement, c'est que Dieu, dans toute sa connaissance, sa perfection, a donné son nom. Il savait déjà tout ce qui s'en venait. Jusqu'à la fin des temps, Dieu n'a pas fini de nous éblouir. Donc, ça, c'est le nom. La prononciation, c'est Yahvé, Yahweh ou Yahweh. On ne sait pas exactement, officiellement, comment ça se prononce. Et la prononciation était... Le pourquoi un peu de ça, c'est que dans l'Ancien Testament, le grand prêtre était autorisé une fois par année à prononcer officiellement devant tout le monde le nom de Dieu. Autrement de ça, il ne le prononçait pas. Il était écrit, mais il ne le prononçait pas. Et je pense que c'était situé au Yom Kippour, la fête, il y avait une fête spéciale dans l'année où le grand prêtre lisait, mais donnait le nom de Dieu. C'était le Yom Kippour, pas certain. Je pense que c'est cette fête-là. Mais une fois dans l'année, justement, le grand prêtre mentionnait verbalement, prononçait le nom de Dieu. Alors, donc, comme je disais un peu tout à l'heure, 6500 fois dans l'Ancien Testament, traduit en français par « éternel » par Pierre-Robert Olivetan en 1535. Alors, et ce nom dériverait d'une conjugaison du verbe « être » en hébreu. Dieu se présente comme le « je suis » dans l'Ancien Testament, dans Exode, et Jésus, plus tard, dans le Nouveau Testament, se présente comme le « je suis » à travers l'Évangile de Jean, où on retrouve sept fois l'expression « je suis » quand Jésus dit « je suis le pain de vie, je suis la porte, je suis le bon berger, je suis la résurrection et la vie ». Il y a sept expressions comme ça où Jésus utilise le mot « je suis ». Et quand Jésus parle de « je suis », ceux qui sont devant lui, qui comprennent ce que Jésus est en train de dire, comprennent très bien qu'il veut, quand il utilise le « je suis », c'est comme s'il disait « je suis Dieu, le bon berger. Je suis Dieu, le pain de vie. » Le terme « je suis », c'est vraiment que ça veut dire « je suis Dieu ». Et tellement que quand les gens sont venus pour arrêter Jésus, alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané, Là, ils cherchaient Jésus. Alors, Jésus a dit « Je suis ». Et quand il a dit « Je suis », les gens devant lui ont tellement été surpris de cette expérience-là. C'est comme si Jésus disait « Je suis Dieu ». Et là, ils ont reculé d'un pas, ils ont tombé sur leur derrière, tellement ce nom-là était gros pour eux autres. Donc, que ton nom soit exalté. Je vais juste vous emmener un petit peu à réfléchir à la grandeur du nom de Dieu. Que ton règne vienne. Que ton règne, on est rendu au verset 10. Que ton règne, quand on parle de règne, ça veut dire qu'il y a un roi, il y a un royaume. Que ton règne vienne. Vienne, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Le règne de Dieu au ciel, il est arrivé. Le royaume de Dieu est au ciel. Dieu règne dans son ciel. Mais est-ce qu'il règne sur la terre? Est-ce que Dieu règne sur la terre? La réponse qu'on a ici, c'est non. Parce que Jésus nous invite à prier pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu, est-ce qu'elle est faite sur la terre actuellement? Non. Elle est faite au ciel, dans le royaume de Dieu au ciel. Mais sur la terre, ce n'est pas le royaume de Dieu actuellement sur la terre. Le royaume de Dieu est proche, que Jésus nous dit, mais actuellement, c'est quel royaume qu'on a sur la terre? C'est un royaume qu'on n'aime pas parler, un royaume qu'on passe sous silence, qui ne fait pas les manchettes, qui ne fait pas les médias. Mais c'est vraiment pas le royaume de Dieu sur la terre. On prie, Jésus nous demande de prier que le royaume de Dieu vienne sur la terre, comme il est au ciel. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. C'est plus le royaume de l'ennemi de Dieu. C'est le royaume actuellement de Satan et de ses démons qui sont sur la terre. Mais ça paraît pas, c'est pas affiché nulle part sur les... vous prenez sur l'autoroute, il n'y a pas de grande chose d'affiche avec « Vous êtes dans le royaume, bienvenue dans le royaume de Satan ». On voit pas ça, en nulle part. C'est caché. C'est caché, mais c'est une réalité pour ceux qui voient comme Dieu voit. Pour les enfants de Dieu qui prennent le temps dans les Écritures de regarder la vérité, ils se rendent compte qu'à plusieurs endroits, on voit que c'est ça la réalité, la triste réalité, c'est ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aimerais ça qu'on vous tournie avec moi un petit peu dans Matthieu, on reste dans Matthieu, au chapitre 26 et au verset 36. Ici, le contexte, dans Matthieu, chapitre 26, verset 36, ici, on se trouve dans le jardin de Gethsémané, justement, un peu comme tout à l'heure, je vous parlais. Jésus est là, et au verset 36, ça dit ceci. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais m'éloigner pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, en fait, c'est Jean et Jacques. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Et dans d'autres passages parallèles, comme dans Luc, qu'on n'ira pas voir, mais il nous donne un peu plus de détails sur qu'est-ce que Jésus est en train de vivre quand il dit qu'il éprouve de la tristesse et des angoisses. Il y avait des sueurs, Jésus, et de son front, de ses sueurs, coulaient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pour vous dire jusqu'à quel point Jésus était angoissé. Il y avait même du sang qui... En fait, les médecins expliquent ça comme c'est des petits vaisseaux qui éclatent sous la pression d'une angoisse extrême, extrême, extrême. Mais c'est quoi l'angoisse que Jésus est en train de vivre à ce moment-là? Au verset 39. Puis, il est en train de prier, là. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe puisse s'éloigner de moi, mais toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » De quelle coupe on est en train de parler? Tout à l'heure, on a pris le repas du Seigneur, on a pris la coupe. La coupe qui représente le sang de Jésus, le sang de la Nouvelle Alliance. Mais la coupe que Jésus voyait ici en train de prier, c'est pas exactement cette coupe-là. C'est la coupe plus qui nous est décrite un peu dans l'Ancien Testament comme étant un peu un symbole de si on peut se l'imaginer, là, prenez une coupe immense, là, puis mettez dedans là, tous les péchés de l'homme, depuis Adam et Ève jusqu'au dernier homme qui va vivre sur la terre. Prenez le péché de l'ensemble de ces personnes-là, tous leurs péchés, incluant les miens et les tiens, mets ça dans une coupe. Et sur cette coupe-là remplie de péchés, que Jésus voit devant lui, ou figuré, là, imagine la colère de Dieu, la colère de son Père, qui se déverse dans cette coupe, parce que Dieu voit cette montagne de péchés-là, et déverse sa colère sur cette coupe-là. Et Jésus voit cette coupe-là. Et Jésus est 100% un homme et 100% Dieu. Mais dans son humanité, il voit cette coupe, il voit ce qui s'en vient, il voit le prix à payer. Il voit que bientôt, dans quelques heures, ils vont venir le chercher avec des bâtons puis des armes. Ils vont venir le saisir, ils vont l'emmener pour être jugé, ils vont lui mettre une épine, une couronne d'épines. Ils vont lui arracher la barbe, lui cracher au visage, l'insulter. Il va être amené pour être crucifié. Il voit tout ça, Jésus. Il voit cette coupe-là qui représente le péché de toute l'humanité avec la colère de Dieu qui se déverse sur cette coupe-là. Et là, Jésus est en train de dire, « Père, c'est-tu possible? Y aurait-tu peut-être un autre moyen? Y aurait-tu pas un autre plan d'autre chose? Mais si c'est pas possible que cette coupe, si c'est possible qu'elle puisse s'éloigner, mais que ta volonté soit faite et non la mienne. » Quand il disait la mienne, il voulait parler à cause de son humanité. Jésus était homme, il avait des craintes comme homme, il y avait une angoisse qui est là, on le voit, pour que le sang sorte de ton front et tombe à terre, il y avait une angoisse terrible qui était là. Il savait ce qui s'en venait. Il voyait surtout la colère de son Père. Ouf, ça, c'est quelque chose. OK. On va revenir où on était dans Matthieu, chapitre 6. Donc, que ta volonté, Jésus prie, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et dans le fond, ce qu'on est en train de regarder ici, c'est la première partie du passage, qui est de tourner nos yeux vers Dieu, reconnaître qui il est, son nom, reconnaître sa position au ciel, reconnaître ses attributs, espérer, anticiper son règne, qu'il puisse régner sur la terre et que sa volonté soit faite. Maintenant, on va regarder la deuxième partie, qui est de chercher la main de Dieu. Et ça commence au verset 11 par « donne, 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 donne ». On n'oublie pas celle-là. On a facile à la retenir. Donne, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est le seul verset dans sa modèle de prière qui parle de nos besoins d'aujourd'hui, notre pain quotidien. Ici, le pain illustre plus que le pain, mais juste pour donner une idée un peu, tu sais, des soldats ou des prisonniers dans des prisons, pas nos prisons d'aujourd'hui au Québec, là, mais les prisons d'aujourd'hui au Québec, là, ils sont très bien nourris, là, les prisonniers, vous n'avez pas à craindre si vous avez fait un tour en prison, là. Ils sont même mieux nourris que certains de nos vieux qui sont dans des CHLC, je ne sais pas trop, là, en tout cas, ils sont mieux nourris, bien des fois. Et là, c'est un débat. Mais c'est pas ça la question, c'est que il y a des armées qu'on a connues même ici au Québec et des prisonniers au Québec, surtout au début, il y a 200-300 ans, là, au début. Il n'y avait pas beaucoup de moyens et il y avait des fois des périodes difficiles, mais il y avait une recette pour être capable de garder un prisonnier en vie. C'était de le garder au pain et à l'eau. Au pain, deux tranches de pain par jour avec de l'eau, il était capable de maintenir un homme en vie. Il ne l'engraissait pas, là. Mais il maintenait en vie, OK? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, nos besoins. Une petite enquête qui était faite aux États-Unis, je n'ai pas trouvé au Québec, là, mais aux États-Unis. rapidement ce que ça dit dans le... Il y a un quart de la tarte. Vous avez toutes des petites tranches, là, des petites pointes de tarte. Là. Il y a 25% que c'est, ça concerne des requêtes imprécises, des requêtes qui sont floues, là, un petit peu, on ne sait pas trop quoi. Nos gouvernements, les ministères dans l'Église, incluant les missions, le ministère de mission qu'on envoie, les guerres, parce que ça, c'est américain, donc les Américains ils envoient des soldats un peu partout dans le monde, fait que les pays gros, 6% de leurs requêtes, c'est pour les soldats qui envoient. Les personnes qui sont inconverties, et j'attire votre attention sur le corps, 23% que les gens prient, pourquoi? Les maladies, leurs petites maladies, rhumatisme, mal ici, mal là, tour de rein, leurs petites maladies, OK? Et 50%, 1 sur 2, prie pour des quelque chose qui a rapport à des événements ou des incidents dans leur vie. Bon, là, j'ai rendez-vous avec mon médecin. Je demanderais qu'on prie pour que Dieu mette sa main sur le médecin. Ben, tout ça. Bon. J'ai un rendez-vous, une entrevue pour une job. Je demanderais que Dieu prie pour que ça puisse bien aller, que je puisse avoir la job. Tout ça. J'ai un accident, mon char il est au garage, puis il ne sait plus quoi faire, comment le réparer, puis ça va me coûter une fortune. Je demanderais qu'on prie pour... comprenez? Ça, c'est 50% des événements, des incidents ou des... tout ça dans le même. C'est pas que c'est pas légitime, mais il faut se questionner un petit peu sur la priorité qu'on met sur nos requêtes ou la grandeur qu'on met sur ce genre de requête-là. Constat, une prière pour une personne perdue, une prière pour nos missionnaires, et les huit autres prières sont liées à nos listes de choses à faire. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble souvent à ce qu'on prend Dieu pour une machine distributrice. Malheureusement. Mais c'est juste qu'un... Ça ne veut pas dire que toutes nos requêtes sont comme ça, là. On se comprend bien, mais il y a un danger. Il y a un danger. Et Dieu nous dit au verset 11, « Donne-nous... » Dans le fond, Dieu veut qu'on lui confie nos requêtes. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et au verset 12, « Pardonne-nous nos offenses. » Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et tout de suite, je vais lier un peu la suite du verset 12. Je vais aller tout de suite au verset 14 et 15. Parce que les versets 14 et 15 viennent un peu comme nous donner un complément d'information sur le verset 12. Dans le verset 12, Jésus nous dit de prier en tenant compte de ceci. On demande à Dieu... Pardonne-nous nos offenses, nos manquements, nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et au verset 14, c'est une remarque, là, un commentaire. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. C'est Dieu qui nous dit ça, là, à travers Jésus. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses, vos manquements. Aïe, aïe! Il y a trois versets. Dans ces trois versets-là, six fois, on nous parle de pardonner. Le mot pardon, ou pardonne, ou pardonnera, ou pardonner, différentes variations. Mais il y a six fois dans trois versets, deux fois par verset. Ça veut dire que c'est important, le pardon? Est-ce que Jésus est en train d'insister sur le pardon ici? Puis même, il nous met... un genre d'ultimatum, là, au verset 15. « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Pourquoi tellement important le pardon? Tout à l'heure, on a parlé que Jésus voyait la coupe devant lui qu'il devait prendre. Et là, cette coupe-là, ça représentait le péché du monde entier et la colère de Dieu qui se déverse là-dessus. Et que là, une des conséquences de ça, c'est que Jésus allait être, que le Dieu, son Père, là, allait détourner la face de Jésus. Parce que Jésus prenait littéralement tous nos péchés, il les mettait sur ses épaules. Il prenait mon péché, ton péché. Autrement dit, il prenait ma condamnation. C'est moi qui aurais dû être condamné à mort à cause de mes péchés. C'est toi qui aurais dû être condamné à mort pour tes péchés. Mais Jésus, il les a pris, il les a offerts en sacrifice à son Père. Il a dit, je fais un deal, je te propose un deal. Ma vie contre la vie d'une multitude de personnes, afin que tu puisses effacer, enlever leurs péchés à tout jamais, et qu'ils puissent jouir d'une relation avec toi pour l'éternité. C'est ça le deal que Jésus proposait à son Père, sur une base volontaire. Lui étant parfait, ayant jamais péché, étant le Fils unique de Dieu. C'est ça le deal. Et si Jésus m'a offert un si grand pardon, moi, Jésus m'a pardonné mes péchés. Il m'a pardonné tous mes péchés. Comment est-ce que je peux me revirer de bord, ayant été pardonné d'un si grand pardon? Comment je peux me virer de bord, puis devant une personne qui m'a fait de quoi, qui m'a offensé, comment je peux ne pas lui donner mon pardon? Comment je serais capable de ne pas lui pardonner? Peu importe ce qu'elle a fait, ça peut être gros, là. Il y a des personnes qui ont été abusées, il y a des personnes qui ont été ridiculisées, il y a des personnes qui ont été volées. Il y a toutes sortes de scénarios et de choses que vous vivez et que vous avez de la difficulté à pardonner. Il y a des choses qui sont, je dirais, presque impardonnables. Mais Jésus, Dieu, t'a pardonné toutes tes fautes, toutes. Et à cause de ce pardon-là qui a une valeur infinie, comment toi tu vas te revirer de bord puis ne pas pardonner à celui qui t'a fait mal? Et il y a des passages qui nous disent que si ça arrive, quand tu as réglé une chose, règle-le au plus vite. Règle ça avant la nuit. Ne garde pas quelque chose qui... Si tu as un conflit avec ton frère, quelque chose, règle ça le plus vite possible. Même si c'est un pardon qui est partiel, fais-le plus vite, reviens-y plus tard. Parce que des fois, on pardonne, puis on s'en rend compte deux semaines après que finalement, on avait dit qu'on la pardonnait, mais finalement, c'était pas si pardonné que ça. Parce que ça te revient, tu sais. Tu y repenses encore. Puis quand t'as avoué, bien, tu passes à côté, tu sais. Fait que tu as pardonné, mais... Fait que ça se travaille devant Dieu qui t'a tellement aimé, qui t'a pardonné. Jésus, il m'a pardonné, hein. Quand je vais le voir au ciel, il ne fera pas un détour pour m'éviter. Il va ouvrir grand ses bras et il va dire, « Entre dans mon repos, dans ma joie. » OK. Pardonner. Et le verset 13, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Ne nous induis pas en tentation. C'est que Jésus a été tenté. Tu sais, Jésus, quand il était dans le désert, au début de son ministère terrestre, à l'âge de 30 ans, il a été conduit dans le désert. Et là, il a été 40 jours sans manger dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours-là? Il a prié, ça. Mais qu'est-ce que le malin faisait? On le voit ça dans Luc. Le malin, le diable, a tenté Jésus pendant 40 jours. Il n'a pas chômé, là. Il ne l'a pas lâché. Il l'a talonné pendant 40 jours. Puis là, les récits qu'on voit dans... Je pense qu'on voit ça dans Matthieu 4, chapitre 4, verset 1 à 11. On n'y retournera pas parce qu'on n'aura pas le temps. Mais on voit que le malin s'est acharné sur Jésus pendant 40 jours. Et là, ce qu'il nous a raconté, les trois événements, les trois tentations, c'est juste la dernière journée, ça, après les 40 jours. Mais il ne l'a pas lâché pendant 40 jours. Puis c'était toujours des affaires insidieuses, là. Comme, ben, on va y retourner peut-être un petit peu vite, mais là, mais pas trop tôt. Mais brièvement, Matthieu, chapitre 4, verset 1. « Le tentateur s'étant approché au verset 3, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais c'est sûr, Jésus, ça faisait 40 jours qu'il n'a pas mangé. Puis il y avait des pierres devant lui. Puis des pierres, belles petites pierres rondes qui ressemblent à une belle petite miche de pain qui sort du four, là, quand c'est tout chaud, là. Moi, ma femme, elle fait des toasts le matin. Puis Je suis pas capable, quand l'odeur des toasts me pointe dans le nez, faut au moins que je m'en fasse une demi-toast. J'essaie de pas en prendre, là, parce que je surveille certaines affaires. Mais je suis plus fort que moi, je faut en prendre au moins la moitié d'une. Mais maintenant, je twist, puis j'ai pas jeûné bien, là. Après 40 jours que t'as jeûné, là, tu vois ces petites miches de pain-là, là, Jésus, il devait y voir comme des pains, il devait, des pains sortis du four, c'est sûr. Puis Satan devait y envoyer des odeurs de boulangerie, là. Ça devait être extrêmement dur. Si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres-là deviennent des pains. Mais Jésus a répondu quoi? Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il y a trois reprises comme ça, le diable essayait de le prendre au piège. Il y en a une, OK, Jésus a monté sur le démon, l'a emmené au-dessus du temple, mais la troisième, au verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tout à l'heure, on parlait de qui était le maître de ce monde, actuellement. On le voit ici. Je te montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Et Satan dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Je te donnerai toutes ces choses. Donc, c'était à qui que ça appartenait toutes ces choses-là? Ça appartenait, c'était sous l'autorité, si on veut, ou sous la gestion de Satan, qui était le maître de tout ce royaume terrestre. Jésus a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. À toutes les fois, Jésus répondait par la parole de Dieu, en citant les Écritures, en citant la parole de Dieu. OK. Maintenant, j'aimerais ça terminer, parce que l'heure avance tellement vite. Terminer par quelques exemples de prières. Oh! Ici, on a une belle petite fille. Elle a 5 ans. Elle est dans un beau tas de feuilles. C'est... J'aurais trouvé une photo d'Andréane, c'était ma fille, mais c'est pas. J'ai pris une autre photo, OK? C'est pas vraiment ma fille. Mais c'est comme si c'était ma fille. C'est les mêmes feuilles, hein? C'est les feuilles, même couleur, mais c'est pas exactement ma fille, OK? À l'âge de 5 ans, j'étais à l'automne, je ramasse mes feuilles. Il a fait un beau gros tas de feuilles. Fait que là, mes deux filles, jouaient dans les feuilles. Puis moi, m'étais acheté une belle, tu sais, machine pour absorber les feuilles, les déchiqueter, là, au gaz, là. J'avais hâte de l'essayer. Fait que là, il était à 4 heures l'après-midi. Andréane vient me voir. Papa, j'ai perdu ma petite étoile. Elle était grosse de même, là. J'ai dit, oh! Elle dit, papa, on va prier Jésus pour qu'elle la retrouve. Ouais. J'ai dit, 4 heures. J'ai dit, bon, comme... Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Ta fille qui te demande de prier, mais là, papa, il s'est mis à genoux dans le tas de feuilles. Là, j'ai prié avec Andréane. Puis Andréane a prié avec ferveur que Jésus retrouve sa petite étoile grosse de même dans le gros tas de feuilles gros de même. J'ai dit amen, mais dans ma tête, c'est évident que ça n'a aucun sens, là, voyons donc. Fait que là, comme papa un peu terre à terre, j'ai pris la balançoire qu'il y avait, je l'ai tirée plus haut que je pouvais, puis là, j'ai lâché. Fait que là, la balançoire, elle s'est mise à balancer, puis là, Andréane, elle cherchait, elle déplaçait feuille par feuille, elle cherchait. Moi, j'étais là, je tassais les feuilles, là, je cherchais, tu sais. Mais je regardais la balançoire, j'ai dit à Andréane, quand la balançoire va avoir arrêté, ça veut dire que Dieu va avoir répondu. Soit que tu l'as trouvé, ta petite étoile, ou bien non, Dieu a décidé que tu ne la retrouveras pas. Ça peut être ça, Dieu répond comme ça, là, tu sais, des fois c'est oui, des fois c'est non. Fait que là, elle a cherché, elle a cherché, elle a cherché. Moi, j'attendais que la balançoire arrête de balancer. Fait que là, mon balançoire était presque immobilisée. Là, je disais à Andréane, je l'ai trouvé! Échappe-la pas! Fait que là, elle, incroyable, j'en croyais pas. Elle l'a trouvé. Dieu a répondu à cette petite prière d'enfant-là. Moi, là, j'avais la foi, là, 0, 0, 0. J'étais pas là pantoute. Mais pas pantoute. Mais elle, elle cherchait dans le but de trouver. Elle cherchait vraiment dans le but que, oui, Dieu allait lui redonner sa petite étoile. Prière d'enfant. Que Dieu a répondu avec joie pour elle. Et pour moi, ça a servi d'exemple aussi. Et puis, elle va s'en rappeler toute sa vie. Autre personne, vous connaissez le monsieur qui est là, monsieur Henri Provencher. Et ici, lui a perdu sa petite fille qui s'est égarée, qui a été portée disparue en 2007, je crois. Ça fait déjà 10 ans. Mais à l'époque, en 2015, OK, ici, à l'Église, on a, comme à toutes les années, on présente l'école du dimanche, et on a un thème à chaque année. Et le thème en 2015, c'était « La prière, j'en fais mon affaire ». Il y en a qui s'en rappellent encore, 2 ans après, c'est bon. « La prière, j'en fais mon affaire ». Et là, on explique ça, bon. Puis là, mon épouse Anne, elle a la brillante idée de dire « André, avec le thème, ça fit très bien si on prierait pour qu'on ait pour que, tu sais, l'enquête, ça fait 8 ans qu'il dure, puis qu'il n'y a pas de réponse, mais qu'on ait, que Dieu donne un dénouement à cette enquête-là qui dure depuis 8 ans. Ouais, il dit, ouais, c'est une grosse demande que tu fais là, parce que là, tu sais, je vais en parler au conseil. Le conseil, il dit, André, c'est une grosse affaire que tu fais là. Fait ils ont fini par accepter. Là, je présente ça à l'Église, aux enseignants. On commence à prier dans les classes, 5 à 10 minutes à toutes les classes, à partir de octobre, on commence à prier. Et puis là, Anne a communiqué avec M. Henri Provencher, qui a une fondation, justement la fondation Cédrica. Et puis là, on a dit en même temps, mais toutes les offrandes qu'on fait dans l'année, on pourrait les donner justement à cette fondation-là. Et là, dans ce cadre-là, on l'invite à venir à l'Église pour nous présenter sa fondation, puis nous présenter aussi le projet qu'on avait comme Église. Il a accepté, il est venu ici. Je l'ai interviewé pendant 3-4 minutes ici en avant devant l'Église. Il nous a présenté un peu c'est quoi. On lui a dit qu'on prierait pour que, justement, il y ait un dénouement à cette enquête-là. Et là, il s'entretient avec les jeunes de l'École du dimanche pendant à peu près une demi-heure. Ça, c'est en fin octobre, début novembre, qu'il est venu ici. Et là, le 12 décembre de la même année, quelques semaines, à peu près 8 semaines peut-être plus tard, qu'est-ce qu'on apprend dans tous les journaux, toutes les nouvelles? C'est qu'on a retrouvé les ossements de Cédrica. Donc, ça venait amener comme un genre de dénouement à cet enlèvement-là, puis on n'a pas de nouvelles depuis 8 ans. Es-tu morte? Es-tu dans une autre province, un autre pays? Qu'est-ce qui est arrivé? On ne savait pas. Là, on sait que Dieu a répondu à cette requête-là à travers les enfants qui ont prié. Moi, j'ai vu des enfants prier, puis je faisais le tour un peu avec Anne aussi dans les classes, et c'était vraiment beau de voir la prière de ces enfants-là, la façon qu'ils s'exprimaient à Dieu, la façon qu'ils formulaient leur prière à Dieu. Et Dieu a répondu. Moi, je suis convaincu que cet événement-là, c'est directement lié au fait que la façon qu'on a prié avec les enfants, il y a un lien direct. Oui. Merci. Oui, c'est bien. Mais je vous avoue que je marchais sur des œufs. Moi-même, j'avais pas une grosse foi. Je ne sais pas comment Dieu a permis que je l'amène pareil, mais j'avais des grosses craintes. Mais finalement, Dieu a passé par-dessus mes craintes et il a touché le cœur de ces enfants-là, justement, à travers cette manifestation-là. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler de Paul. Paul qui était en prison. Paul, c'est quoi l'objet de ses requêtes quand il était en prison? Il était en prison, mais il était durant toute sa vie, une fois qu'il a remis sa vie au Seigneur, qu'il était préoccupé par quoi? Il a été fouetté, les 40 coups moins un. Il a été laissé pour mort à un moment donné, tellement qu'il avait été battu. Dans ses prières, il priait pour « j'ai mal, mes plaies me font mal, priez pour moi pour que ça guérisse ». On voit ça nulle part dans les Écritures. Une fois, il a prié pour, il y avait quelque chose, peut-être à l'œil ou quelque chose comme ça, là. Pardon? Il y avait quelque chose au niveau de ses yeux, on croit. Et puis, il a prié trois fois pour ça. Et puis, à un moment donné, Dieu a répondu, « Ma grâce te suffit. » Autrement dit, il a gardé son problème qu'il avait, mais Dieu lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Mais toutes les autres fois où il a prié, c'était par rapport à l'avancement de l'Évangile, permettre que les portes se rouvrent, que les gens soient, les cœurs soient transformés, qu'ils puissent avoir, qu'ils puissent entendre le message de l'Évangile, qu'ils puissent le recevoir. Il priait pour ça. Il a prié aussi, à un moment donné, que quelqu'un y rapporte son manteau, qu'il avait laissé oublier quelque part, avec des parchemins, les documents qu'on voit sur l'image. C'était des requêtes techniques, on va dire, mais que Dieu a permis que ça soit répondu. Alors ça, c'est l'apôtre Paul, et je vais terminer par le dernier ici, qui est Jésus, qui était sur la croix. Jésus sur la croix, il a fait trois prières. Il a parlé à son Père trois fois sur la croix. Et voici ce qu'il a dit. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, sur la croix, en train d'accomplir sa mission, voyant qu'il a été rejeté par la majorité des Juifs, il dit « Pardonne-leur ». Donc, l'idée du pardon était dans la tête de Jésus. « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La deuxième fois qu'il s'adresse à son Père, il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Tout à l'heure, on a parlé de la coupe que Jésus voyait devant lui et qu'il se demandait « C'est-tu possible que cette coupe-là puisse s'éloigner de moi? » Mais non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite, Père. Et ici, Jésus, sur la croix, mentionne « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est comme s'il vient confirmer que la coupe, il l'a vraiment pris. Et le résultat de ça, la conséquence, c'est que Dieu, le Père, a détourné son regard. Il y a eu une séparation là, entre le Père et le Fils. Le temps que Jésus prenne nos péchés, mes péchés, tes péchés, il a pris ma condamnation, ta condamnation. Et le temps qu'il fasse ça, il a payé le prix, parce que le prix du péché, c'est quoi? C'est la mort, c'est ce que nous dit les Écritures. Le salaire du péché, le prix du péché, la conséquence du péché, c'est la mort. Et Jésus a pris la mort que moi j'aurais dû avoir, que toi tu aurais dû avoir. Il l'a pris avec lui. Mais il en a payé le prix, un grand prix, le prix de sa vie, du fait que Dieu le Père détourne son regard de celui qui était à la croix comme ça, qui prend le péché du monde. Et Jésus, sa dernière parole qu'il a dite, c'est « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Juste avant qu'il rentre son dernier souffle, il a dit à son Père, « Je remets, c'est comme si j'ai ce sacrifice-là, cette coupe-là que j'ai pris, et le résultat, je t'offre mon sacrifice, ma propre vie, en échange de plusieurs personnes qui vont croire en toi, et que tu vas pouvoir effacer, laver tous leurs péchés, qui vont pouvoir être réconciliés à jamais avec toi. Je t'offre mon sacrifice de ma vie. » Et là, le Père a répondu. Pas tout de suite. Jésus est mort, mais trois jours après, le Père l'a ressuscité des morts. Jésus ne pouvait pas demeurer dans la mort comme ça. Jésus, le Père l'a ramené à la vie, et Jésus est maintenant assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Prions pour terminer. Je vais demander aussi à l'équipe de s'avancer en avant. Bon Papa du ciel, toi qui nous as tellement aimés, qui as été prêt à laisser partir ton propre Fils bien-aimé, qui était de toute éternité auprès de toi, et laquelle vous jouissiez ensemble d'une entente merveilleuse. Et Jésus, Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir accepté de prendre cette mission, de venir sur cette terre, d'endurer ce que tu as enduré, d'être méprisé, te remercie d'avoir pris mon péché, d'avoir accepté de prendre cette coupe et d'avoir donné ta vie pour que moi, je puisse avoir la vie. Merci, Seigneur Jésus, pour ce que tu as fait et fais du bien à nos âmes. Permets qu'on puisse comprendre ce grand mystère qu'on appelle le salut, mais qui est si simple en réalité. Tu m'as aimé jusqu'à donner ta vie pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Amen.